Vous écoutez
RMC.
7h59 sur RMC et il continue à faire doux, Géraldine.
Très doux, oui, mais je vous avais promis une perturbation par jour. Et bah, celle d'aujourd'hui.
C'est une promesse qu'il fallait absolument tenir, Géraldine.
Ah, bah désolé, je tiens mes promesses. En tout cas, attention parce que celle-là, elle est quand même assez costaud. Vigilance orange sur le Finistère jusqu'à 16h au moins pour des pluies intenses, des risques d'inondation. On attend quand même 60-70 mm de pluie sur la journée. Donc il va beaucoup pleuvoir sur le Finistère, sur l'ensemble de la Bretagne, également sur les pays de la Loire, jusqu'aux Charentes-Maritimes, jusqu'aux côtes de la Manche. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent aussi. À l'opposé, on a un épisode Cévenol qui est en train de se mettre en place, qui va évoluer sur un épisode méditerranéen pour la fin de la semaine. On aura quand même un peu de soleil entre les Pyrénées, le nord du Massif central, les Alpes et l'Alsace. Attention au risque d'avalanche qui reste important sur la Savoie. Les températures, oui, vous le disiez, c'est de la douceur. 10 degrés à Grenoble cet après-midi, 11 à Paris, 13 à Bordeaux, 14 à Lyon, 15 à Marseille, 16 pour Biarritz.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Très belle journée à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des militaires français sont en route pour le Groenland ce matin. Plusieurs pays européens déploient des soldats sur ce territoire européen qui est convoité avec insistance par les États-Unis. Les États-Unis qui temporisent quant à une éventuelle intervention militaire en Iran. Deux dossiers évoqués ce matin en Conseil de défense à l'Élysée. Et nous serons à Blois dans ce journal, au matin du procès d'un homme de 27 ans, accusé d'avoir laissé pour morte son ex-compagne qui avait tenté de porter plainte contre lui quelques heures plus tôt.
Un conseil de défense commence à l'instant à l'Élysée.
Oui, il a été convoqué en urgence dans la soirée par Emmanuel Macron pour évoquer la situation en Iran et pour parler également des velléités américaines au Groenland. Sébastien Krebs, vous êtes le chef du service politique à RMC en direct ce matin. Tout s'est accéléré en fait hier soir. Donald Trump a répété qu'il avait besoin du Groenland pour assurer, dit-il, la sécurité des États-Unis. Et la France envoie donc des soldats.
Oui, des militaires français sont même déjà en route, a confirmé hier soir Emmanuel Macron. Et d'autres suivront, écrit le chef de l'État. Alors à ce stade... Pardon, on ne parle que d'une quinzaine d'hommes, selon BFM TV, des membres d'unités de montagne aguerris au grand froid, précise l'AFP. Excusez-moi. Pour ce qui est présenté comme une mission de reconnaissance qui commence dès aujourd'hui, mais surtout un exercice conjoint avec des forces danoises, mais aussi nos voisins européens. Il y aura des Allemands, des Suédois, on voit bien le message, il est surtout... politique. Il s'agit surtout d'aller planter le drapeau, de montrer que les Européens font bloc et qu'ils défendront la souveraineté danoise. Autre signal, la France va ouvrir un consulat sur place dès le début du mois de février. Si la souveraineté d'un pays européen était touchée, les conséquences en cascade seraient inédite, a prévenu Emmanuel Macron hier, message qu'il devrait réitérer à la mi-journée. Il doit s'exprimer sur la base d'Istres pour ses vœux aux armées, après donc ce conseil de défense qui commence en ce moment même.
Voilà, Sébastien Krebs en direct ce matin pour RMC. Il sera question aussi de l'Iran dans ce conseil de défense. Donald Trump a l'air temporisé quant à une éventuelle intervention américaine et de nouvelles images qui montrent la contestation contre le régime encore très importante, Romain Houg.
Pour le 18e jour d'affilée, des dizaines de milliers de manifestants déferlent dans les rues de nombreuses villes iraniennes, comme ici à Téhéran, la capitale. Mort au dictateur, scande une foule immense, entre autres slogans à l'encontre du régime des Mollahs. Une mobilisation historique réprimée dans le sang par les autorités du pays. Selon le dernier bilan de l'ONG Iran Human Rights, au moins 3428 manifestants ont été tués depuis le début du mouvement et plus de 10 000 ont été arrêtés. Parmi eux, Erfan Soltani, manifestant de 26 ans, arrêté la semaine dernière, devait être le premier à être exécuté par le régime. Exécution reportée. Le ministre iranien des Affaires étrangères était sur Fox News hier, chaîne que regarde Donald Trump.
Je peux vous assurer, et vraiment je suis sûr de moi, qu'aucune exécution de manifestants n'est prévue, ni aujourd'hui, ni demain, jamais.
Une information presque impossible à vérifier sur place, toute communication est verrouillée par le régime, mais Donald Trump lui répond.
Eh bien nous allons observer ça, j'espère que c'est vrai. On observera ça et on verra quelle est la suite.
À la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir aujourd'hui pour évoquer la situation en Iran.
Il y a leur effet immédiat après les propos de Donald Trump qui semble temporiser. Les cours du pétrole ont dégringolé 3% cette nuit sur les marchés après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 3 mois, un petit peu plus tôt dans la semaine. Il est 8h04 sur RMC. L'actualité nous mène à Blois ce matin où une nouvelle affaire de tentative de féminicide sera jugée aujourd'hui, demain également. C'est l'histoire de Marvin, 27 ans, et de Chloé, 22 ans. Deux jeunes qui avaient fait connaissance sur une application de rencontre à l'été 2022 avant de se séparer quelques mois plus tard. Rupture que N'acceptez pas Marvin, qui est accusé d'avoir tenté de tuer et laissé pour morte Chloé devant son domicile de Blois, alors qu'elle avait, et ce sera d'ailleurs au cœur de ce procès aux assises aujourd'hui, Constance Bostoen, alors qu'elle avait tenté de porter plainte seulement quelques heures avant le drame.
Après une énième dispute avec son ex-compagnon, Chloé pousse les portes du commissariat de Blois pour porter plainte. Mais le policier refuse. Sa mère est à ce moment-là au téléphone avec elle. Elle demande à parler au fonctionnaire comme elle le raconte quelques semaines après les faits.
Je supplie. Je lui ai dit que ma fille était en danger. Et il me dit, il y a une procédure à faire. Et si ça se passe mal, il faudra qu'elle compose le 17.
Chloé n'en aura pas le temps. Arrivée devant chez elle, la jeune femme est victime de coups de pied sur la tête, puis laissée pour morte. Après 2 mois dans le coma, elle souffre de lourdes séquelles physiques et psychologiques. Elle n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé.
J'avais une colère parce qu'on ne nous a pas écoutés. Ce n'est pas une femme qui a demandé de l'aide, c'est 2 femmes.
Son agresseur risque aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité. Lui, qui a toujours nié avoir eu l'intention de la tuer, explique Stéphane Rapin, son avocat.
Il a eu ce geste d'une grande violence, mais qu'il n'a pas réalisé l'étendue de la gravité de ces gestes, qu'il a pu déclarer à plusieurs reprises également.
Le policier qui avait renvoyé Chloé chez elle a été mis à la retraite d'office. Selon nos informations, il devrait venir témoigner cet après-midi devant la cour d'assises.
2 chiffres ce matin dans l'actualité. Les Français se serrent de plus en plus la ceinture. On en a la preuve avec le nombre de dossiers de surendettement qui a augmenté de quasiment 10% l'année dernière, annonce le gouverneur de la Banque de France. C'est autant que l'année d'avant. Et ça va rien arranger, les frais bancaires vont augmenter d'environ 3% cette année, révèle ce matin l'association de consommateurs CLCV. On parle là des frais de tenue de compte ou encore pour avoir une carte bancaire, Anna Jojard.
S'il est difficile pour beaucoup de clients de savoir exactement le montant de leurs frais bancaires...
Je regarde pas. Je crois que ça doit être 12 euros.
Je dirais 10 euros par mois, mais j'en sais rien.
Beaucoup semblent résignés face à l'augmentation de ces tarifs.
Tous les ans, ça augmente, l'habitué.
C'est vrai qu'ils augmentent, et puis c'est eux qui ont le pouvoir, en fin de compte.
C'est des petites sommes, mais mises bout à bout, qui devraient arriver à quelque chose de plus important.
Une tendance à la hausse confirmée par Maya Attig, mais la directrice générale de la Fédération française bancaire l'affirme. Depuis 2017, les tarifs des banques ont augmenté 2 fois moins vite que les prix à la consommation.
Les banques ont fait un gros effort pour ne pas relever leurs prix pendant la période où l'inflation a été très forte. Et là, il y a une période, je ne sais pas combien de temps elle peut durer, pendant laquelle ces prix vont augmenter.
Une hausse qu'elle explique aussi par l'investissement des banques dans l'innovation et la technologie. Et elle invite les consommateurs à faire jouer la concurrence entre les banques pour trouver un prix adapté à leurs besoins.
Ça va rugir dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque la finale opposera le Maroc au Sénégal, les Lions de l'Atlas contre les Lions de la Teranga. Ce sont les surnoms des deux équipes qui sont qualifiées hier soir. Le Sénégal en battant l'Égypte 1-0 avec un but de Sadio Mané. Et le Maroc qui a eu besoin quand même d'aller au tir au but pour éliminer le Nigeria devant son public à Rabat, qui a explosé de joie à la fin du match. Écoutez au micro d'RMC.
On est en finale ! On est en finale ! La Coupe reste à la maison ! On est venu de Paris jusqu'ici. On a arrêté le travail. Voilà, on est qualifié. Voilà, on n'a pas eu peur. On est là. La coupe reste à la maison. On est tous contents. Les émotions, elles sont là. Le pays nous a fait plaisir. La coupe est à la maison.
Voilà. La joie des supporters marocains, c'était donc hier soir à Rabat au micro d'RMC. La finale, ce sera dimanche à 20h à vivre évidemment sur RMC, radio officielle de cette Coupe d'Afrique des Nations. On pense déjà à la Coupe du Monde qui commencera au mois de juin. Est-ce qu'elle sera la plus suivie de l'histoire? A priori, oui. La FIFA dit avoir reçu plus de 500 millions de demandes de billets. Pas découragé par les prix très élevés dans les stades américains. Et puis aujourd'hui, c'est l'Euro masculin de handball qui commence dans 3 pays nordiques. La France, tenante du titre, jouera son premier match à 18h contre la République tchèque.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le Chypre, c'est un gros voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de l'économie française dont vous nous parlez ce matin.
Oui, parce qu'on a eu au cours des dernières semaines déjà des mauvais chiffres sur les faillites, sur les intentions des grandes entreprises, sur la faiblesse des ETI. Mais là, vraiment, le chiffre qui inquiète, c'est celui qui ressort de l'enquête annuelle du syndicat des indépendants et des très petites entreprises, publiée hier. 96% de ces patrons de TPE se disent épuisés, inquiets ou découragés. Il n'y en a que 7% qui ont réussi à augmenter un peu leur marge en 2025. Et on rappelle que plus de 8 entreprises sur 10 en France sont ces très petites entreprises, à savoir des entreprises de moins de 10 salariés.
Donc ça représente la très vaste majorité des patrons. C'est un ras-le-bol qui va bien au-delà des aléas, juste de la conjoncture.
Et oui, c'est ça qui est inquiétant. C'est pas seulement le trou d'air sur les carnets de commandes, c'est que, en fait, ce que constatent beaucoup de petits patrons, c'est que leur chiffre d'affaires ne suffit plus à couvrir des coûts structurellement en hausse, hein, l'énergie, ça suffit plus non plus à absorber une paperasserie toujours plus envahissante et complexe qui va encore s'alourdir avec la facturation électronique, ce qui finalement les contraint à ne plus se payer. On a quand même plus d'un petit patron sur deux qui se paye moins que le SMIC aujourd'hui. Et donc, dans ces conditions, eh ben, c'est simple, ils en ont ras-le-bol. Deux petits patrons sur dix envisagent une cessation d'activité, là, dans les six prochains mois avant l'été. Et quand on dit cessation d'activité, c'est pas ils font faillite, c'est qu'ils en ont marre, ils tirent le rideau, ils vont faire autre chose.
Donc c'est une cessation d'activité volontaire.
Exactement.
Quelles conséquences pour le tissu économique de toute la France, pour l'emploi?
Eh ben, les TPE, elles sont dans tous les secteurs d'activité, mais particulièrement dans le bâtiment, l'artisanat, le commerce, l'hôtellerie. Elles sont au cœur de l'économie de proximité. Elles sont particulièrement présentes dans la ruralité, les petites communes. En fait, les TPE, c'est les seules entreprises dont vous connaissez le nom du patron. Hein. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est 20% de l'emploi, sauf que c'est bien plus en création d'emplois. C'est-à-dire que c'est la catégorie d'entreprise qui crée de loin le plus d'emplois aujourd'hui en France. Or, aujourd'hui, vous en avez plus de 8 sur 10 qui vous disent « bah non, on créera pas d'emplois en 2026 ». Donc, c'est une situation de fragilité que tous les élus qui vont discuter des budgets 2026 et 2027 etc., doivent bien avoir en tête avant de décider sur qui ils vont taper pour essayer de réduire les déficits publics.
Arrêter de jouer avec nos impôts, c'est ce que disait hier le gouverneur de la Banque de France qui était mon invité à 8h30. Merci Emmanuel, 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint sur RMC à 8h30. L'invité du face-à-face, ce sera le politologue Gilles Kepel. Alors que la nuit a encore été extrêmement complexe, on ne sait toujours pas quelles sont les intentions des États-Unis vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis du Groenland. La France qui a convoqué en urgence un conseil de sécurité qui a commencé à 8h ce matin. Rendez-vous donc à 8h30 pour tout comprendre avec Gilles Kepel. Juste après le face-à-face, on retrouvera comme chaque matin Nicolas Canteloup et ses imitations. Rendez-vous à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Bonjour Arnaud. 8h15, c'est l'heure d'accueillir Arnaud Demanche.
Apolline, Pascal, Géraldine, Mathieu. J'ai ouï dire que vous aviez des enfants.
Oh non. Moi?
Oui, une sortie qu'on aime bien faire en famille, c'est le salon de l'agriculture. Mais alors cette année, méfiez-vous, les organisateurs ont annoncé il n'y aura pas de vaches. Il n'y a pas de meux, il n'y aura pas de vaches. En raison de l'épidémie de dermatose nodulaire, ça va être triste. Un salon de l'agriculture sans vaches.
C'est chaud quoi.
C'est comme un salon du chignon sans Mathieu Béliard. C'est comme un salon de l'étudiant sans Jean-Marc Morandini. Mais j'ai une bonne nouvelle les enfants, il y aura quand même des bovins. Car plein de politiques parcourront les allées du salon, des vieux sénateurs, des députés dépressifs.
Maman, maman, c'est quoi cet animal tout mou sans aucune colonne vertébrale?
C'est un député Les Républicains. N'y touche pas, il est peut-être contagieux. Alors Emmanuel Macron n'ira pas au salon de l'agriculture, je pense, hein, parce que le salon, c'est sympa s'il y a des vaches. Mais si c'est juste pour voir des agriculteurs pas contents et des tracteurs, c'est bon, j'en ai assez vu pour cette année. J'ai juste à ouvrir une fenêtre. Par contre, Jordan Bardella, lui, devrait y être. Ce sera encore la star. Hein. Monsieur Bardella, qu'allez-vous faire pour l'agriculture? Alors, l'agriculture est très importante pour faire pousser des légumes et des fruits, pour les exportations. Oui, d'accord. Et les éleveurs? Alors, les éleveurs, grand 2, petit A, les éleveurs. Chaque éleveur doit avoir un professeur dans chaque classe. Vous confondez avec les élèves. Ah, merde, les élèves. Chapitre 15. Merde, vous direz rien aux électeurs. C'était filmé, monsieur Bardella. Ah, bon, alors attendez. Je vais manger du saucisson et du pâté en disant « Vive la France !»« Vive la France !» Et voilà, plus 3 points, ils n'ont rien vu.
L'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient d'être embauché par le cabinet de conseil américain Macro Advising Partners.
Exactement. Oui, c'est un cabinet à New York, c'est pour ça l'accent. Il conseille les multinationales sur les enjeux économiques. Prendre Bruno Le Maire, 3 000 milliards de dettes pour des conseils économiques, c'est vraiment prendre Jonathan Daval comme conseiller conjugal. Si ça se trouve, c'est un agent infiltré de la France qui a pour mission de détruire l'économie américaine et de sauver le monde de Trump. On va prendre un missile dans la gueule. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé comme saloperie? On avait dit... pas l'arme nucléaire et pas Bruno Le Maire. Very bad Bruno, bad economy, very bad, oh, bad renflement brun, bad renflement.
Après, son rôle peut être très positif à Bruno Le Maire. Imaginez le cabinet. Bruno, nous avons besoin de votre expertise. Que feriez-vous pour cette société?
Eh bien, moi, je vendrais mes actifs.
Achetez tout! L'oracle a parlé! L'oracle inversé a parlé! C'est comme ça qu'on gagne des milliards!
En France, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer le retour du 49-3, pour faire passer le budget. Sébastien Lecornu s'y refuse. Il prend donc le risque que les députés renversent le gouvernement.
Oui, et Emmanuel Macron menace d'une dissolution si le gouvernement est renversé. Donc il y a plein de députés, ça les arrange pas de perdre leur job. Donc ils demandent le 49-3 pour pas être virés et pas repartir en campagne sur les marchés. Parce qu'en plus, il y a marché et marché. Hein. Nous, on se dit, c'est sympa de faire campagne au marché, parce qu'on imagine les petits marchés de province sous le soleil de juillet. Bonjour, escarte de figue. Tiens, une tranche de bonne saucissonne du père Fougas. Quelle est belle notre province. Et le sambon, le panifou. Bonjour, monsieur le député. Bon courage pour votre campagne. Pistou, offre un bouquet de lavande à monsieur le député. De la lavande de province, du cerf follet, des petits lapins. Oh, fan de chichourle, la bagasse mondiale, bonne mère. Mais quand tu dois aller sous la pluie au marché à Arras en février et te faire engueuler par un poissonnier parce qu'il y a trop d'arabes,
il y a des mosquées partout. C'est de votre faute, hein. Je vais te mettre un coup de camion, salopard. Gamin, Donovan, va gifler ce connard avec un camion au milieu de quatre pauvres stands. Alors, il y a le poissonnier, il y a le type qui vend des chaussettes par boîte de 5.
Oui.
Il y a le rhum qui vend des Playmobil de contrefaçon et la vieille qui te refourgue des pulls moches de chez Shein en fibre de plastique. Donc les députés, ils disent pitié, pas
non,
encore.
Va aller
utiliser le 49-3. Et le cornu, il dit bah non, si j'utilise le 49-3, ça veut dire que je vous demande pas votre avis. Mais on s'en fout, il est nul à chier, notre avis, de toute façon. Faut pas vous fatiguer avec ça. On est naze. On peut vous le dire qu'on est naze, on est bien placé pour le savoir. C'est nous les députés, quand même. Eh bien voilà. Écoutons la représentation nationale. Elle sait mieux que nous. Courage les députés et bonne journée tout le monde.
Courage les députés donc. Merci Arnaud Demange. Je vous retrouve tous les matins en direct 7h20, 8h20. Vous êtes nombreux au 32-16 à réagir à cette question de surendettement. On vous le disait, plus 10% de dossiers de surendettement l'an dernier et c'était pareil l'année d'avant. Ça fait 2 ans que ça explose. Bonjour Carmel. Carmel, vous nous appelez des Vosges. Vous êtes à la marche.
Oui, c'est ça.
Carmel, racontez-nous, vous vous êtes vous-même retrouvé dans une situation de surendettement ?
Oui, oui, malheureusement, suite à des mauvais choix et un accident de la vie qui a fait que j'étais plus en capacité de pouvoir rembourser ce prêt-là. Ça a été la descente aux enfers.
Ça se manifeste comment ? C'était quand ? Comment vous avez fait pour appeler à l'aide ?
Il y a un peu plus de 7 ans.
Ok.
Il y a un peu plus de 7 ans et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû reconnaître et accepter ce qui a été le plus dur de me dire que voilà, j'ai besoin d'aide.
Ouais. Demander de l'aide. Oser se dire en fait, j'ai besoin d'aide. C'est ce que nous disait tout à l'heure le spécialiste de ces questions-là. Il disait n'attendez pas.
C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, par le biais d'une assistante sociale, j'ai eu recours à la Banque de France en fait pour un dossier de surendettement.
Ok.
Moi, la différence, c'est que moi, ça a été un gel des créanciers pendant un peu plus de 2 ans.
Pour qu'ils vous donnent le temps de ressortir la tête de l'eau.
Exactement. Mmh. Mais encore, faut-il avoir la possibilité de retrouver dans cette situation-là un travail stable, un loyer
revenus,
modéré. Mmh. Exactement. Et puis, moi, j'avais une vie de famille, donc faut pouvoir compenser tout ça. Et moi, ce qui m'a manqué, je dirais, c'est que on n'a pas pris en compte toute ma situation. Mmh. On se base sur si vous voulez, quand vous faites le dossier de surendettement, on se base sur l'instant T. On fige la situation. Mais on ne sait pas ce qu'il en est au bout de 2-3 mois. Moi, il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai perdu mon emploi. Et du coup, malheureusement, ce qui avait été calculé pour geler ces créanciers ne suffisait plus. Donc, au bout de 2 ans, je me retrouve harcelé créanciers.
Est-ce que vous vous en êtes sorti, Carmel, aujourd'hui?
Eh ben, en fait, ça a été, je dirais, il y a eu un contexte, parce que moi, ça revenait sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi avec les banques. Moi, j'ai dû avoir recours à une néobanque, en fait. Mmh. Une banque chez un buraliste, qui m'a permis d'avoir des frais fixes, de pas avoir de découvert. Et du coup, j'ai essayé de relever la tête, sortir la tête de l'eau. Mais ce que je regrette, en fait, c'est qu'il n'y a pas de suivi au-delà de ces 2-3 années pour nous dire comment ça se passe, est-ce qu'il y a une évolution.
Pour continuer à vérifier en temps réel, en quelque sorte, en fonction de votre situation, comment faire. Carmel, merci beaucoup de votre témoignage et l'importance, comme vous le dites, de reconnaître et donc d'appeler à l'aide. Et ensuite, ne laissez pas tomber ceux qui ont fait cette demande et à contaminer-les sur le long terme. Merci beaucoup, Carmel, de nous avoir appelé au 32-16. Il est 8h22 sur RMC et BFM TV. On vient de parler de votre pouvoir d'achat. Et là, on va parler de la question des menaces, les menaces de pire en pire, et cette nuit encore beaucoup d'incertitudes. Incertitude des États-Unis, vont-ils intervenir en Iran? Incertitude vis-à-vis du Groenland et la France qui a réagi puisqu'elle a convoqué hier soir tard un conseil de défense en urgence. Il a commencé il y a 22 minutes maintenant à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Comprendre cette situation et les menaces qui nous guettent avec Gilles Kepel. Il est mon invité tout de suite sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à mon invitation ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier livre, ça s'appelle Antiterrorisme et c'est aux éditions Plomb. On a besoin de vos lumières ce matin pour essayer de comprendre ce qu'il se joue et notamment ce qu'il s'est joué dans les toutes dernières heures et ce qu'il se jouera peut-être même aujourd'hui. L'Iran, les menaces, position américaine et l'ensemble de la région, avec en toile de fond également des menaces pour l'OTAN avec le Groenland. Sur ce qu'il s'est joué dans les toutes dernières heures, au point qu'Emmanuel Macron a décidé en urgence de convoquer un conseil de défense qui se tient en ce moment même à l'Élysée, qui a commencé à 8h. Des déclarations parfois contradictoires de Donald Trump sur l'Iran. Au moment où l'on se parle, Gilles Kepel, il ne semble plus que les prochaines heures puissent voir des frappes américaines.
En effet, oui, l'un des signes clairs, c'est que le trafic aérien commercial a repris sur l'Iran. Et donc, les compagnies n'auraient pas envoyé des avions s'il y avait des frappes.
À l'instant, Turkish Airlines annonce reprendre ses vols en direction de Téhéran.
Voilà, et un certain nombre d'autres. Donc, on ne pense pas qu'il y aurait une frappe américaine dans l'immédiat. Ça, hier, il y a eu une grande tension parce que Donald Trump a fait savoir que s'il y avait des pendaisons prévues, puisqu'on annonçait la pendaison d'un jeune homme aujourd'hui, qui avait été arrêté dans une ville proche de Téhéran à la suite d'une manifestation, il agirait. Du côté des Mollahs, le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, a annoncé qu'il y a cette pendaison n'aurait pas lieu, était retardée, je ne sais pas. Et donc, ça a donné à Donald Trump le prétexte, si vous voulez, pour reculer. Puisque de toute façon, il est très difficile, même s'il voulait frapper, de le faire. Il a déporté l'essentiel de ses forces militaires sur l'hémisphère ouest, comme il l'appelle. Il s'est occupé du Venezuela. Donc, on est en train, aujourd'hui, les Américains sont en train de faire revenir un porte-avions vers le Golfe Persique. Il en a pour une semaine avant de revenir.
Il est en route?
Semble-t-il, oui.
Donc dans une semaine, il aura techniquement, oui, si je puis dire, une base à partir de laquelle il pourrait frapper. Il y a la question aussi de l'Arabie Saoudite, du Qatar, qui ont expressément refusé que les Américains ne survolent leur pays. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'au moment où on se parle, Donald Trump est en train, en quelque sorte, de lâcher les Iraniens après les avoir quasi encouragés à sortir dans la rue?
Alors, d'une part, du point de vue de Donald Trump, il a, si j'ose dire, plusieurs fers au feu, puisque tout le monde est aujourd'hui très préoccupé en Europe par les menaces croissantes sur la souveraineté danoise et européenne sur le Groenland. Donc, les dirigeants danois étaient à Washington pour en parler avec le vice-président Vance récemment. L'armée française a envoyé un détachement qui est arrivé au Groenland ce matin. Ça peut sembler surréaliste, cette histoire, d'un côté le Groenland et l'Iran, mais c'est le monde de Donald Trump d'une certaine manière. Et je ne pense pas que ça veuille dire qu'il est renoncé. Ça veut dire que il met les moyens pour exercer une forte pression sur la République islamique. Il faut bien voir que même si il n'y a pas d'opposition unie qui permettrait de faire tomber le régime, c'est-à-dire par rapport, on compare beaucoup ce qui se passe avec la chute du Shah en 79, c'est-à-dire à l'envers d'une certaine manière. À l'époque, vous aviez les mollahs qui sont dans le monde chiite, une hiérarchie cléricale structurée qui obéit à des ordres
d'en haut.
Oui, un ou des chefs. Enfin, Khomeini avait été le grand chef, c'est le guide suprême, et qui pouvait, ce qu'on appelait en persan, Vahdet al-Kalimeh, c'est-à-dire l'unité des mots d'ordre. Et donc, qui organisait le soulèvement très précisément, qui faisait désobéir aussi un certain nombre de dirigeants des forces de répression du Shah. Il n'y a rien d'équivalent aujourd'hui.
C'est un soulèvement populaire.
Voilà, qui n'a pas l'air. Enfin, il y a des gens de l'extérieur qui, comme le fils du Shah notamment, qui s'en réclame, qui l'anime éventuellement, mais il n'y a rien sur le terrain qui indique une capacité de mobilisation continue, durable, et aussi il n'y a pas pour l'instant de signe de défection à l'intérieur du régime. C'est-à-dire le phénomène Maduro. On pense maintenant que Delcy Rodriguez, quand même, était prévenue à l'avance de ce que Maduro allait partir et qu'elle allait remplacer.
Du renversement de Nicolas Maduro côté Venezuela. Gilles Kepel, les massacres qui ont eu lieu ces derniers jours de manifestants, est-ce que Donald Trump dit, selon mes informations, ces massacres vont cesser? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que l'on peut espérer que ces massacres cessent? Et est-ce que, malgré le coup de froid à nouveau de Donald Trump sur une éventuelle intervention, le régime s'écroulera ou est-ce qu'il peut tenir?
Alors, pour l'instant, il ne tient que par une répression monstrueuse. Hein, et on a vu les tirs à balles réelles, etc. Les témoignages les plus poignants sont ceux d'Iraniens qui ont réussi à partir et qui sont revenus, puisque, comme vous l'avez vu, il y a eu le blocage de l'Internet. Le pouvoir iranien a même réussi à empêcher le Starlink d'Elon Musk de fournir des informations, et les seules informations sont des gens qui ont réussi à revenir et qui ont fait des réussites.
Et Elon Musk qui avait tenté effectivement donc de redonner via Starlink Internet, ouais. Mais le gouvernement iranien menace de mort qui que ce soit qui l'utiliserait. Hein.
Oui, il y a ça, et puis il y a aussi un autre phénomène qui est plus préoccupant, qu'on voit monter, c'est la fabrication d'images de manifestation par l'intelligence artificielle. Et apparemment, ça a été beaucoup utilisé par le régime des Mollahs quand ils ont annoncé leur contre-manifestation de soutien au régime, etc. Il semble que le fast-checking, comme on dit, n'ait pas été fait avec beaucoup de scrupules par un certain nombre de médias qui ont produit du coup des images de manifestations enthousiastes.
Ce que vous êtes en train de dire, Gilles Kepel, c'est que les quelques images que l'on avait de soi-disant manifestations de soutien précisément au régime islamique pourraient être des faux.
Oui, c'est en fait ce qu'un certain nombre de sites d'analyse sont en train aujourd'hui de démontrer.
Régime peut-il tenir?
Alors, c'est justement la question. À mon avis, il ne tient que par la répression aujourd'hui. Et ça, il ne peut pas durer, même sur le moyen terme là-dessus, puisque si vous regardez la situation intérieure, elle est absolument catastrophique. C'est venu effectivement d'un effondrement de la monnaie, c'est venu du bazar, le début de la révolte, c'est-à-dire il n'est plus possible de faire de l'argent en Iran, y compris cette classe moyenne religieuse qui s'était enrichie grâce aux Mollahs, et c'était le bazar qui avait déclenché le début de la révolution contre le char en 1979. Donc tout ça, ces fondamentaux n'ont absolument pas bougé. L'Iran a des réserves de gaz et de pétrole gigantesques. Il y a des pénuries d'essence en Iran puisque l'essence subventionnée est revendue à la frontière pakistanaise, etc. Il n'y a plus d'eau à Téhéran. Le président iranien, Monsieur Pezeshkian, avait presque même annoncé cet été qu'on allait demander aux habitants de Téhéran de quitter la ville parce que peur d'être assoiffés. Donc tout ça semble aujourd'hui en très mauvaise position. Aujourd'hui, ils tiennent par la répression et surtout, ils n'ont plus leur système de dissuasion extérieure. Qu'est-ce qui protégeait la République islamique ? C'était en grande partie la machine à attaquer Israël, basée essentiellement sur le Hezbollah, avec le corridor terrestre à travers l'Irak et la Syrie, qui permettait de livrer des missiles très lourds au sud du Liban, qui pouvaient attaquer Israël, détruire une petite ville israélienne par exemple, ce qui était à titre préventif une garantie que ni Israël ni les États-Unis n'allaient attaquer le territoire de la République islamique. Tout ça n'existe plus aujourd'hui.
Depuis ce qu'on appelait la guerre des 12 jours.
Voilà, et même avant, en fait, c'est le paradoxe, c'est le 7 octobre. Quand Yahya Sinwar lance l'attaque du 7 octobre, oui, du Hamas, la razzia pogromiste du 7 octobre, il pense qu'il va infliger à Israël un coup terrible, effectivement, en termes d'image, Israël a beaucoup souffert, tout ça, ensuite, après la répression, la guerre d'anéantissement à Gaza, tout ce que chacun l'appelle comme il veut, et après chacun des mots qu'on prononce là-dessus, on reçoit des tombereaux d'insultes d'un côté et de l'autre, mais on continue un pas vide. Et le paradoxe, c'est que cette guerre, lancée par le Hamas et par Sinwar, finalement, a abouti à un affaiblissement considérable de l'Iran, puisqu'elle a permis la destruction de tout son système de dissuasion, oui. Donc,
il y a le Hezbollah. Voilà. Ses alliés Hezbollah, évidemment.
Il n'y a plus de régime syrien d'Assad qui n'est
plus. Ses défenses aériennes.
Voilà, ses défenses aériennes. Hamas contrôle plus ou moins le territoire de Gaza, mais n'a plus de capacité de projection. Donc, si vous voulez, l'Iran est tout ce qui faisait sa puissance.
Son allié vénézuélien, voilà, comme vous le disiez également. Gilles Kepel, certains souhaitaient une intervention et souhaitent toujours une intervention de Donald Trump. C'est le cas notamment de la lauréate iranienne du prix Nobel de la paix en 2003, qui demande à ce que les États-Unis mènent des actions hautement ciblées. L'Arabie Saoudite, le Qatar, à l'inverse, demande aux États-Unis de ne pas intervenir. Quelles seraient les conséquences d'une intervention d'un côté, qui, si je vous entends bien, peut-être n'aura pas lieu, certes, dans les prochaines heures, mais Donald Trump n'y a pas pour autant totalement renoncé. Non. Quelles seraient les conséquences aussi sur l'équilibre global ?
Et on peut regarder ce qui s'est passé lors de la guerre des 12 jours dont vous parliez, c'est-à-dire que la hantise des Américains, s'ils étaient allés plus loin que 12 jours, c'était la décomposition de l'Iran à la manière dont l'Irak de Saddam Hussein s'est décomposé quand le dictateur est tombé, c'est-à-dire Daesh est sorti de tout ça, ça a créé du terrorisme dans toute la région. Et là, on voit de très fortes inquiétudes, par exemple des Saoudiens, des Qataris, des Émiratis. Imaginez que des gens incontrôlés s'emparent des dépôts d'armes des Pasdaran, de leur flottille dans le Golfe Persique, attaquent les pétroliers. Vous avez remarqué que le baril de pétrole a monté de 10 dollars.
Parce qu'en quelque sorte, ils se disent rassurés en quelques heures après effectivement la déclaration qui semble laisser entendre effectivement qu'il n'y aura pas de frappe dans les prochaines heures. Immédiatement, le cours du baril de pétrole a remonté. Si les États-Unis n'interviennent pas militairement, y a-t-il un autre chemin pour que le régime islamique d'Iran s'écroule ? D'autres doivent-ils ou peuvent-ils intervenir ? La France, par exemple. Israël demande à la France de soutenir la reconnaissance des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Est-ce que ça pourrait avoir la moindre conséquence ? Le Conseil de sécurité de l'ONU a été convoqué tout à l'heure, en particulier sur cette question de l'Iran. Est-ce qu'il y a d'autres voies pour intervenir et faire tomber le régime ?
Conseil de sécurité, tant que vous avez la Chine et la Russie qui ont un droit de veto, je ne pense pas qu'il faut en attendre grand-chose. La Chine est assez préoccupée par ce qui se passe en Iran, parce que la Chine n'a pas de pétrole, contrairement à la Russie. Pour la Russie, le pétrole iranien, la Russie est exportatrice d'hydrocarbures. La Chine est une grosse consommatrice et importatrice parce que c'est ce qui la croissance chinoise veut se faire que ça, qu'à travers ça, et elle bénéficie de pétrole iranien et vénézuélien justement, qui à travers différents trafics de transbordement au large des Philippines ou autres, tout ça est aujourd'hui très fortement perturbé pour les Chinois. Ça, c'est indéniablement. Mais pour ce qui est d'une intervention américaine, elle est envisageable, si vous voulez, elle est possible, mais elle ne peut advenir que si d'abord les possibilités militaires de le faire sont réunies. Or, actuellement, il ne semble pas que les États-Unis aient les moyens de frapper, de mobiliser les choses, puisqu'ils ont trois fers au feu. Mais le Venezuela, le Groenland et l'Iran.
J'allais revenir aussi au Groenland, parce que je veux aussi vous entendre sur le fait que finalement l'un n'est pas sans lien avec l'autre, alors qu'effectivement, géographiquement, on imagine que tout cela est très différent. Mais Gilles Kepel, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait malgré tout un porte-avions qui avait repris le chemin, effectivement, pour pouvoir s'approcher à nouveau de l'Iran. Est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, au fond, c'est que les États-Unis n'interviendront pas en violant ce que demande l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire en passant au-dessus du ciel de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, mais qu'une fois que leur porte-avions se sera rapproché, est-ce qu'ils auront à ce moment-là la possibilité, l'option stratégique, d'intervenir sans avoir à passer par l'espace aérien.
L'option sera sur la table, et puis les Saoudiens et les Qataris peuvent aussi se faire tordre le bras par les États-Unis.
Ça
s'est déjà vu. Donc, je crois que c'est surtout l'inquiétude du chaos qui se répandrait dans toute la région. Et c'est ça qui inquiète beaucoup. Vous avez vu que d'ores et déjà, dans la péninsule arabique, les choses étaient assez tendues. Au Yémen, il y a eu une conflagration entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Israël et les Émirats ont favorisé la création d'un État indépendant, le Somaliland, qui est détaché de la Somalie et qui est destiné, en gros, à surveiller le détroit de Bab el-Mandeb, c'est-à-dire le détroit qui ferme la mer Rouge, par lequel passent tous les bateaux qui vont ensuite depuis l'Asie, depuis la Chine, à travers le canal de Suez en Europe. Donc, on a énormément, si vous voulez, de recompositions, de manœuvres qui traduisent l'évolution des rapports de force mondiaux qui se produisent en ce moment dans le Golfe. Et l'Iran est une des pièces de cet échiquier.
Quand on dézoome, Gilles Kepel, à la fois dans le temps, en regardant dans les mois qui viennent, mais également, effectivement, quand on a un regard comme le vôtre sur l'ensemble de la région, est-ce que vous diriez, au fond, que depuis le 7 octobre, puisque vous disiez que ça a été quand même un moment décisif, finalement,
et paradoxal.
Paradoxalement, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est l'affaiblissement de ce régime islamique?
Oui, globalement, il est très affaibli par rapport à sa situation avant le 7 octobre. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas, probablement, continuer éternellement ainsi. On pense bien qu'à l'intérieur même de ce régime, il y a des gens qui, pour garder le maximum possible, vont vouloir envisager des compromis. Mais ils ne peuvent pas le faire dans une situation de contrainte, puisque là, ils n'en pourraient plus contrôler rien. Et on peut envisager effectivement qu'à l'intérieur, ça bouge. La question étant celle du guide suprême, Ali Khamenei, 86 ans, qui n'a pas envie d'avoir le destin de Bachar el-Assad, ni de Maduro.
Gilles Kepel, dans le même temps, il y a en effet cette concomitance avec la menace sur le Groenland. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, le fait justement de jouer sur ces deux tableaux en même temps, c'est calculé de la part de Donald Trump?
Alors, le Groenland, c'est aussi un enjeu très idéologique. Vous avez vu que c'est en fait, il a chargé le vice-président Vance, qui est beaucoup plus virulent généralement dans son propos, de traiter l'affaire du Groenland. C'est lui qui a reçu le ministre des Affaires étrangères danois, qui s'est rendu à Washington. Et j'ai l'impression que cette priorité est subrogée, si vous voulez, à celle de l'Iran, étant entendu que on considère que les Européens n'ont pas fait grand-chose. Alors, on a envoyé des contingents militaires, la perspective étant, est-ce que des troupes américaines de l'OTAN pourrait tirer sur des soldats de l'OTAN européen. Ça créerait une situation de crise complètement inédite, mais la disruption du système international telle qu'elle est pensée par Trump n'a été jamais vue. Thomas Gomard, le patron de l'IFRI, vient de publier un livre dans lequel il le compare à une sorte de parrain, d'une certaine manière, au sens de la mafia sicilienne, du système international. Et on voit bien que toutes les catégories de pensée que nous avions pour réfléchir sur le système international sont aujourd'hui mises à l'épreuve par cette présidence disruptive et aussi ce bouleversement du monde, si j'ose me citer, qui a été mis en œuvre par le 7 octobre.
Merci beaucoup Gilles Kepel. Bouleversement du monde, c'était le titre d'un de vos précédents livres. Votre dernier, il s'appelle Antiterrorisme et vous l'avez écrit avec Jean-François Ricard sur la traque des djihadistes alors que vous vous exprimiez à l'instant. L'Iran, comme vous le disiez d'ailleurs, a très officiellement démenti que l'homme qui a été arrêté samedi pendant ce qu'il disait être des émeutes puisse être exécuté. C'est le pouvoir judiciaire iranien qui, en tout cas, au minimum, tente de gagner du temps. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir répondu à nos questions. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Gilles Kepel, mon invité ce matin, est resté avec nous. Rebonjour Gilles Kepel.
Rebonjour.
Et Donald Trump souhaitait d'ailleurs réagir à cette interview. Monsieur le Président, bonjour.
C'est votre président préféré qui vous parle. Oui, je voulais dire au spécialiste de la géopolitique, Gilles Kepel, il peut s'avancer dans son travail et dire dans son prochain livre que l'Iran, avec son pétrole, ce sera bientôt le 55e État américain. Oui, après le 51e, le Venezuela, le 52e, le Groenland, le 53e, Cuba, et puis aussi l'autre île là-bas, l'île de France. Oui, parce que c'est chez nous, Paris. Disney, c'est chez nous.
Ah,
Mickey, je le connais bien. Sa femme aussi, Minnie, je l'ai connue chez Epstein.
Merci, monsieur le président Donald Trump. Gilles Kepel, vous êtes un expert donc du Moyen-Orient. Merci d'être resté avec nous pour nous éclairer sur la situation très complexe en Iran.
Oui, bien écoutez, c'est tout à fait normal. Je suis là pour expliquer le Moyen-Orient à tous les cons qui ne comprennent rien et aux autres qui s'en branlent. Écoutez, la situation est assez limpide. Vous avez la ligne dure de l'ayatollah Ali Khamenei, 86 ans, bousculé, qui pourrait rejoindre Bachar el-Assad à Moscou et ainsi éviter que le Hezbollah, qui servait à attaquer Israël, et les proxys yéménites, bien sûr, de l'Iran chiite, et même si d'ailleurs sunnite, d'ailleurs, vous avez raison, Mme de Malherbe, financé par les Saoudiens, Qataris, des Émirats, soit susceptible d'affaiblir le Hamas, qui a déjà fort à faire, vous le savez, au Groenland, par le biais du canal de Suez que Maduro souhaite obtenir par le biais de la Cisjordanie et des gardiens de la révolution de la Chine septentrionale dont la Russie est proche, ce qu'on oublie d'ailleurs souvent de préciser. Mais moi, vous savez, je suis un expert et je fais du fast-checking, surtout à l'aéroport. Mais bien entendu, il faut resituer à cela, cher Apolline de Malherbe, dans un contexte géopolitique plus global, avec bien sûr, vous le savez, les dernières décisions du Vanuatu islamique et des îles Fidji, Salafo, à la 8. Je peux développer si vous le souhaitez.
Non, c'est qu'on a bien compris. C'était limpide. Merci Gilles Kepel. C'est fou, en quelques minutes, vous avez réussi à nous rendre le monde plus simple. Alors justement, on va rester sur l'internet.
Le tour du monde en 80 secondes.
On va rester sur l'international avec Donald Trump, son appétit expansionniste. Eric Ciotti souhaitait nous alerter. Monsieur Ciotti, bonjour.
Oui, moi je convoite Nice. Et Nice, il faut le dire, est en danger. C'est une terre rare, il faut le dire, gorgée, Monsieur Kepel le sait, de sous-sols et de métaux précieux.
Des métaux précieux dans les sous-sols niçois ?
Mais oui, dans les cimetières niçois.
Ah.
Hein, on en trouve à foison, des dents en or, des hanches en titane, des rotules en cobalt. Oh, ça peut attirer la convoitise de Trump, voilà. Et vous le lirez dans le prochain livre de Gilles Kepel.
C'est sûr.
Nice est une cible.
Donc, hein. Voilà. Puisque je suis originaire de Nice,
j'ai grandi dans la circonscription dont Ciocchi est le député.
Ah, ben vous pensiez pas ce qu'il vient de dire.
C'est une très bonne imitation de Kepel.
Kepel imite très bien Kepel.
Il est parfait.
Je vous écoute.
Alors, où en étais-je? Oui, donc le scénario où. Oui, c'est une cible, Nice, il a raison. Mais ou alors il y a un autre scénario possible, parce que Trump peut faire aussi enlever le chef de l'État niçois, le tyran Christian Estrosi. Hein, en hélicoptère, je l'imagine, en claquette chaussette, et il met en place un homme de confiance. Et là, je ne vois que moi. Donc finalement, il est bien, ce Trump.
Merci, Eric Ciotti. La crise agricole se poursuit. Il y en a un qui n'a pas été beaucoup entendu, tiens, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Et là, vous m'entendez pas, là?
Si, là, c'est bon, là, je vous entends, monsieur Mélenchon.
Oui, je parle moins fort aujourd'hui parce que j'essaye de me mettre en mode gentil, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'une élection présidentielle approche, donc il faut changer d'image, paraît-il. Voilà.
Ah.
La crise agricole, je vais vous en parler. La cause, c'est pas la dermatose ou le Mercosur, non. La cause, quelle est-elle? C'est la politique de Macron, évidemment. 4 premiers ministres en 2 ans. Il y a une forme d'instabilité. Et l'instabilité, évidemment, ça forge la révolte des paysans. Hein. Est-ce que M. Kemel le sait? Est-ce qu'on a déjà vu des paysans se révolter en Russie? Non. Hein. En Corée du Nord, non. À Cuba, non. Voilà. Hein, parce que là-bas, c'est stable. Voilà. Donc, vous avez compris pour qui il faut voter. Parce que la stabilité, c'est moi.
Vous aviez promis de vous calmer, monsieur. Merci en tout cas. Les municipales ont lieu dans moins de 2 mois. Mmh. Et un jeune candidat au Puy-en-Velay, mmh, Baptiste Vauquier, 22 ans.
Oui. Oui, tout à fait. Et j'ai lu son programme.
Ah oui.
Il est formidable.
Ah oui.
Je cite, pour que les volcans d'Auvergne restent en Auvergne et qu'il y ait moins d'Arabes dessus.
Ah oui,
c'est brillant, c'est limpide, on dirait du Kepel.
Oui, bah, Laurent Wauquiez, je vous reconnais. Baptiste Wauquiez, bah, c'est votre fils.
Ah bon? Ah bah écoutez, non, mais franchement, je l'ignorais. Vous savez, moi, je passe la plupart de mon temps à Paris. Le Puy-en-Velay, j'y fous jamais les pieds. Donc, je ne connais pas tous les locaux.
Ah oui, enfin, arrêtez.
Mais je me disais bien que son nom me disait quelque chose.
Ok, c'est mort. Il est candidat donc sur la liste de Michel Chapuis, qui était déjà l'homme de paille, que vous aviez mis à votre place à la mairie quand vous étiez devenu président de région.
Non, mais peu importe, ce Baptiste Wauquiez est un petit génie, c'est ça qu'il faut retenir. Vous rendez compte? Seulement 22 ans?
Il est encore plus précoce que votre Louis Sarkozy. Hein. Mmh. Il pourrait être chroniqueur chez vous, vous exposeriez encore plus au niveau audience. Peut-être que vous-même, vous dépasseriez France Inter avec le Baptiste Wauquiez.
Bon, enfin, c'est quand même un peu nul, ces fils d'eux qui reprennent la boutique de leur père. Franchement, ça pose une question de légitimité quand même, monsieur Wauquiez.
Mais non, mais légitime. Et on sent, mais ouvrez les yeux. Bande de Malherbe. Ouvrez les yeux, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils savent faire des TikTok comme personne, oui, les jeunes. C'est ça la politique aujourd'hui, madame de Malherbe. Mm. C'est sur TikTok que les municipales vont se jouer. Mm. Vous avez vu Mamdani à New York, hein? Mamdani à New York, c'est que grâce aux réseaux qu'il a été élu. Hein? Mm. Et moi, mon fils, je le connais. Je le connais très bien. Il passe sa journée à rien foutre sur un canapé sur les réseaux. Hein? Donc je vous le dis, c'est un super candidat.
Ah bah c'est QF2. Merci Laurent Wauquiez. On va continuer sur les municipales. Le Levallois-Perret, Patrick Balkany, bonjour. Oui. Vous souteniez Jérôme Goliard, mais je cite, vous avez dit, j'ai découvert ses casseroles. Il a des dettes partout, je ne peux plus le soutenir.
Bon, écoutez-moi bien, jamais, vous m'entendez, madame de Malherbe, monsieur Kepel, monsieur Marchand, jamais je ne soutiendrai un homme malhonnête.
Oui, c'est très bon. Cette attitude très
responsable, monsieur Balkany. Attendez, avant de me féliciter, j'ai pas fini ma phrase. Jamais je ne soutiendrai un homme malhonnête qui a des dettes.
Ah.
Hein? Oui, mais pardon, mais quand on magouille, c'est pour qu'il y ait au moins un enrichissement personnel. Hein? Si c'est pour avoir des dettes, c'est que vous êtes un nulard. Je vais pas soutenir un gars comme ça, pardon, mais dans le milieu, moi j'ai une réputation à tenir.
Je comprends bien, monsieur Balkany. Merci beaucoup. Et merci Nicolas Cantelou. Face à quand vous retrouvez demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Merci aussi à Gilles Kepel d'être resté avec nous. Dans un instant, les GG. Alain Marchal, quel est le programme?
Eh bien, figurez-vous que on sait que les GG ont du succès. Les GG ont du succès aussi sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous que 2 de nos vidéos ont été retweetées et relayées par Javier Milei, le président argentin. Il a trouvé ses champions, Charles Consigny et Barbara Lefebvre, relayés par Javier Milei. Ben, on va en parler dans les GG. D'accord.